Europe 1.
Punchline. Laurence Ferrari.
On se retrouve en direct dans Punchline sur Europe 1. On est avec nos invités. Guylaine Ottenheimer est la rédactrice en chef de Challenge. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Louis Haushalter, journaliste à Marianne. Nous sommes avec Jeannette Beaugrab, essayiste. Et Amine El Khatmi, président du Printemps Républicain. Bonsoir à tous les
Bonsoir.
Quatre. L'actualité, évidemment, elle va nous emmener sur la campagne présidentielle avec les déclarations de François Hollande. Tiens, on va l'écouter parce qu'il est assez sévère dans son dernier ouvrage, notamment sur ses amis de gauche, qui compare à des lilliputiens. On entendra aussi Marine Le Pen, qui tient une conférence de presse quasiment tous les jours. Et on va commencer par Éric Zemmour, qui a fait le buzz du jour avec une séquence qui s'est déroulée au salon Millipol. C'est un salon de l'armement dans lequel traditionnellement les candidats à l'élection présidentielle se rendent. Il n'est pas encore candidat, vous le savez. Et là, il a manié un fusil d'assaut utilisé par le RAID. Et en le prenant, il s'est un peu dévié. Il a fait mine de viser les journalistes en leur disant « reculez, attention, ça ne va pas rigoler ». Ça a provoqué une réaction assez vive de Marlène Schiappa, qui s'est dite horrifié par cette séquence, surtout au moment où lui, Éric Zemmour, envisageait de réduire les pouvoirs de la presse. On va écouter la réponse cinglante, peut-être un dérapage, d'Éric Zemmour tout à l'heure à propos de ce qu'a dit Marlène Schiappa.
Vous étiez devant moi. J'aurais braqué n'importe qui, comme vous dites. Mais je braque personne, vous savez, je menaçais personne.
Qu'est-ce que vous répondez à Marlène Schiappa qui dit que votre comportement est horrifiant, je la cite, sur Twitter.
Marlène Schiappa est une imbécile. Voilà ce que je lui réponds. Qu'elle est grotesque et ridicule. Elle essaye de chercher à monter en neige une polémique grotesque. Tous les Français vont se moquer d'elle et c'est pas la première fois. Qui a un langage excessif avec moi ? J'aimerais que vous répondiez à cette question. Qui fait des papiers dans le Point pour m'insulter ? Qui me traite de Bonaparte, de Carnaval et autres ? Qui, comme Madame Schiappa, dit que je vise les journalistes avec des fusils pour les tuer ? Je ne sais pas qu'elle, ben, les autres aussi sont des imbéciles comme Madame Schiappa. Si vous ne savez pas la différence, si vous savez pas la différence entre l'humour, la blague et le sérieux, c'est que vous êtes un imbécile. Ben oui, c'était de l'humour, oui. Mais c'est pas de votre faute. Hein. Vous pouvez progresser encore. Et Madame Schiappa, elle, je pense que c'est trop tard.
Guylaine Ottenheimer, comment est-ce que vous réagissez à cette polémique, on va dire, la polémique du jour ?
J'ai presque envie de dire no comment. J'ai plus envie de parler de Zemmour. Il me sort par les trous de nez, là, j'en peux plus. C'est tellement lamentable de voir que quelqu'un de ce niveau prétend à la fonction présidentielle et qu'il y a 17% des sondés qui disent qu'ils sont intéressés. Les bras m'en tombent parce que là encore, on a vu les sondages aujourd'hui, l'immigration est de loin pas le premier problème des Français. Il y a l'écologie, il y a le pouvoir d'achat, il y a la sécurité, il y a beaucoup d'autres choses. Il dit des chiffres qui sont totalement faux, mais il tourne les chiffres, il magouille, il fait des additions qui n'ont pas lieu d'être. Enfin, il dit un nombre de choses fausses qui sont hallucinantes. Mais voilà, je ne sais pas, il y a une espèce de fascination. Je dis, c'est la femme à barbe. On regarde ce personnage étrange qui, quand même, irradie une sorte de méchanceté, de mal-être, surtout. Voilà. Et ce geste n'est pas du tout innocent. Je veux bien de l'humour entre copains, mais enfin, il est en campagne présidentielle ou pré-présidentielle, il vise des journalistes et il dit « maintenant, on rigole plus ». Enfin, je veux bien que ce soit de l'humour, je suis d'accord. Enfin, voilà, c'est un geste qui, quand même, en dit long inconsciemment et traiter vraiment les gens d'imbéciles. Je trouve que là, il a perdu un peu son sens du vocabulaire.
Amine El Khatmi, c'est un dérapage pour vous ?
Oui, d'abord sur le geste en lui-même, on entend beaucoup de policiers depuis ce matin, d'anciens militaires qui expliquent que la règle élémentaire quand on a une arme, c'est qu'elle soit chargée ou pas, de ne pas viser de personne, même quand l'arme n'est pas chargée. De surcroît, quand on vise des médias, des journalistes, il y a une portée symbolique. Il ne visait pas que des individus parce qu'ils étaient là. Il a visé, sous prétexte de l'humour, des gens qui représentent des médias, qui représentent l'information. Donc il y a une portée symbolique qui est assez préoccupante. Et puis, on se dit quand même comment un homme aussi fin, aussi cultivé, aussi érudit peut se vautrer dans la grossièreté à ce point-là. Et je pense que c'est un calcul, parce que moi, je ne crois que ça ne le dessert pas. Par rapport à l'électorat qu'il vise, je pense que les gens, pardon de le dire un peu trivialement, mais les gens qui l'aiment bien vont trouver ça assez couillu, assez courageux. Globalement, c'est des gens qui n'aiment pas beaucoup les journalistes, hein, il faut se le dire. Il y a une forme de défiance à l'égard des médias. Et je pense que ce soir, on va plutôt se dire, bah, t'as vu le RX qui leur a mis dans la gueule à ces journalistes, plutôt que l'indignation sur les propos portés à Marlène Schiappa. Je pense que tout ça est assez calculé. Je le crois suffisamment intelligent pour avoir pensé tout ça.
Donc, ce n'est pas un dérapage.
Guylaine, je ne crois pas. Voilà.
Jeannette Bougrabe, votre réaction.
En fait, il s'inscrit dans ce que peut faire un candidat américain républicain quand il va visiter l'association américaine pour les armes à feu. Donc, il se met en scène avec un fusil d'assaut. C'est un peu un Vladimir Poutine qui veut... C'est une sorte de conception ou d'image qu'il veut rendre virile, puissante. Il veut changer son image en réalité de chroniqueur ou d'éditorialiste ou de journaliste pour la montrer en question virile, presque phallique en fait. Donc il va dans un salon d'armes à feu en fait. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? La question est celle-ci, mais je pense que c'est pensé. Voilà. Je ne pense pas que c'est quelque chose. Et Marlène Schiappa est une femme brillante et intelligente qui a compris en réalité que dans la campagne électorale, c'était Zemmour. Elle le vit. Ce sont deux personnages, deux animaux politiques. Et c'est là, la campagne a commencé. Et voilà.
Donc, et elles ne volent pas haut pour l'instant, Louis Aouassalder.
Pas vraiment ce que j'allais dire. Moi, je redoutais un peu ce jour qui arriverait où on allait commenter les tweets de Marlène Schiappa postant la liste des journalistes tués dans le monde cette dernière année pour répondre à un Éric Zemmour qui a trouvé intelligent de braquer des journalistes avec une arme. Enfin, vraiment, en fait, je préférais presque quand Zemmour posait des sujets de fond dans la campagne, que tout le monde se positionnait, que du coup, ça alimentait les débats. Certes, on ne parlait que d'immigration, mais on n'était pas en train de commenter les tweets de réponse à un geste d'un candidat. La deuxième chose que ça m'inspire, c'est effectivement, est-ce que Zemmour va assumer un tournant trumpiste dans sa campagne, qui n'est pas un tournant d'ailleurs, parce que le ton qu'il a sur les réseaux sociaux, le ton qu'il a parfois aussi sur les plateaux, ce qu'il incarne dans la forme depuis qu'il est habitué à des provocations, ça a quelque chose de trumpien, mais trumpien à la française. C'est-à-dire que contrairement à Trump, c'est quelqu'un de cultivé, qui connaît l'histoire, qui sait l'écrire et la réécrire, et qui donc, je dirais que dans le modèle Trump qui incarnait le businessman avec du succès, qui allait s'inviter en politique, et ben en France, on a plutôt cette culture du polémiste, de l'intellectuel, de l'auteur qui va s'inviter en politique. Parce qu'on vénère plus que les Américains la figure du littéraire et beaucoup moins la figure du businessman. C'est une question culturelle et c'est évident. Est-ce que Zemmour... c'est évident que ce n'est pas anodin quand il pointe des journalistes avec une arme, même déchargée. Je ne sais pas s'il le fait consciemment, s'il se dit vraiment que c'est une blague qui va passer, mais évidemment, pour son public, ce sera interprété d'une manière qui n'est absolument pas anodine. Et c'est évident qu'il flatte les gens qu'il aime bien. Bien sûr que beaucoup de gens, ça les ravit de voir quelqu'un pointer avec une arme des journalistes. Il ne faut pas du tout sous-estimer la haine du journaliste dans ce pays, et pas que pour des mauvaises raisons, malheureusement. Donc, est-ce qu'il va continuer comme ça sur la forme ? Il est évident que ça va flatter son public, bien sûr. Ça peut aussi réveiller un camp d'en face qui va se mobiliser contre lui en trouvant que, quand même, à la fois dans les mots et dans les actes, il va un peu trop loin. Je suis incapable de répondre à cette question pour l'instant.
Le camp d'en face, c'est La République En Marche.
Non, mais aussi des sympathisants de gauche qui qui voient pas d'offres de leur côté, qui soit vont pas voter.
Même la droite classique.
Oui, aussi peut-être, mais je pense notamment à des orphelins de la gauche qui voient aucun candidat de gauche qui émerge et qui hésitent même à faire barrage. C'est-à-dire que les débats qu'on a eus sur est-ce que la gauche va aller faire barrage, la fameuse expression qui revient tout le temps face à Marine Le Pen. Même si c'est pas Le Pen, mais Zemmour. Peut-être que si Zemmour continue comme ça, ce sera un motif de rêver pour l'électorat.
Très rapidement, c'est une constante dans la vie politique française que de cibler les journalistes. Il faut se souvenir, par exemple, de la campagne de François Bayrou en 2007, qui était d'une violence inouïe contre la presse, où il parlait notamment en attaquant Sarkozy en disant que les médias étaient à la botte du sarkozisme, etc. La campagne de Mélenchon régulièrement contre les médias, on se souvient de propos extrêmement violents. C'est assez porteur, parce qu'encore une fois, et Louis Osalter avait raison, il y a une partie de la population, on l'a vu avec les Gilets jaunes aussi beaucoup plus récemment, il y a une partie de la population l'impression qu'il y a une forme de défiance à l'égard des médias qui sont vus comme ça, comme manipulant la population au service d'intérêts de puissants qui contrôleraient la presse dans ce pays pour contrôler les cerveaux. Voilà, et certains politiques un peu pas très consciencieux utilisent ça.
On fait une toute petite pause, on se retrouve dans un instant dans Punchline, on continue à débattre du phénomène Zemmour. On a un sondage qui effectivement montre que son socle électoral est assez solide. À tout de suite.
Punchline sur Europe 1, Laurence Ferrari.
On se retrouve dans Punchline pour tenter de décrypter le phénomène Zemmour. Avec vous, Victor Chabert. Bonsoir, Victor. Les sondages se multiplient depuis l'entrée dans la pré-campagne d'Éric Zemmour. Et l'IFOP a réalisé une grande étude pour décrypter l'électorat potentiel du polémiste.
Oui, Laurence, et elle confirme la dynamique d'Éric Zemmour. Elle le place à 16% d'intention de vote, 17% pour Marine Le Pen, 15% pour Xavier Bertrand. Avec les marges d'erreur, sa qualification pour le second tour est de l'ordre du possible. On y apprend également que le bloc de la droite nationale populiste attire désormais un électeur sur trois. Ce bloc comprend Marine Le Pen, Éric Zemmour et Nicolas Dupont-Aignan. C'était un électeur sur quatre en 2017. Dans le détail, le polémiste bénéficie d'un électorat potentiel déjà solide. 64% de ceux qui veulent voter pour lui sont sûrs de leur choix. C'est presque autant que pour Emmanuel Macron ou Jean-Luc Mélenchon. Quant au profil des possibles votants, Éric Zemmour veut être un pont entre la droite et le RN. Et selon l'IFOP, il capte la frange populaire de la droite classique et les CSP+ du Rassemblement National. Cette enquête faite pour la LICRA a été réalisée sur 5000 Français, soit 5 fois plus que les études habituelles. Pour l'Institut, ces résultats démentent l'idée que la candidature du polémiste ne serait qu'une bulle sondagière.
Ce n'est pas une bulle sondagière, Louis Hausselter, a priori.
Non,
un électorat consolidé.
En fait, c'est ça. Ce qui est intéressant dans les sondages, c'est moins de voir le score des candidats, et donc de Zemmour en particulier, que les catégories où ils prennent. Et effectivement, ce qu'a dit Victor Chabert, c'est qu'en fait, sa grande force à lui, c'est qu'il attaque à la fois les Républicains et le Rassemblement National, c'est-à-dire qu'il met des coups de pioche des deux côtés. Donc, il n'est pas prisonnier d'un seul électorat, d'une seule catégorie. Après, il ne faut pas se tromper, il y a aussi des zones de faiblesse. Par exemple, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes qui votent Zemmour, allez savoir pourquoi. Il y a beaucoup plus de retraités, son électorat est assez âgé, donc il ressemble plus à un électorat assez aisé, bourgeois et retraité, avec un profil droite classique, que aux catégories populaires qui sont plus mobilisées par le vote Marine Le Pen en général. Donc il a des zones de force, il a des zones de faiblesse, mais sa principale force dans sa dynamique et dans le phénomène Zemmour, c'est qu'il arrive à donner des coups de pioche à deux partis à la fois et à affaiblir deux pôles politiques à la fois. C'est à mon avis ce qui lui permettra son atout actuel.
Guylaine.
Il a surtout donné un coup de pied à Marine Le Pen monumental en disant « tout le monde sait qu'elle ne sera jamais élue ». Et ça, de le dire tout haut de cette façon, ça a beaucoup, beaucoup démonétisé Marine Le Pen. Et du coup, il s'est un peu, comme le Bernard Lhermitte, mis dans la coquille. Et je pense qu'il y a une partie de l'électorat de droite qui pense que ça fait des années qu'on est dans le mi-chèvre, mi-chou, qu'on ne fait rien, qu'il faut que le système explose, une envie que la marmite explose. Et donc, finalement, il ne regarde pas très bien, il ne regarde pas vraiment si Éric Zemmour serait capable de gouverner, s'il respecte des principes, si ce qu'il dit est vrai. Ils ne font pas de fact-checking, ils s'en fichent. C'est une espèce d'impulsion. Alors, pour le moment, cette impulsion et ce désir est très fort. Mais on est quand même à 6 mois de la présidentielle et on sait très bien que ce type de candidature qui émerge très fort, on n'en a pas connu qui monte si fort. Enfin, on a connu Bayrou, on a connu Mélenchon, on a connu Chevènement, on a même connu Coluche. Il y a comme ça des moments où des candidatures surgissent très fort. Il faut voir ce qui se passera à l'approche de la présidentielle quand d'autres thématiques prendront le dessus. On a ces derniers mois beaucoup parlé d'immigration, etc. Maintenant, on est sur le pouvoir d'achat, on va être sur d'autres sujets. Est-ce qu'il tiendra le devant de la scène de la même manière ? C'est une des questions.
On va juste écouter Marine Le Pen parce qu'elle a bien compris le danger Zemmour. Elle pointe les divergences qu'il y a entre elle et lui, notamment sur les questions économiques et le pouvoir d'achat.
Nous avons des divergences profondes sur le domaine économique et sur le domaine social. Moi, quand j'entends Éric Zemmour dire que parler du pouvoir d'achat, c'est mépriser les Français, moi, je pense que c'est ne pas parler du pouvoir d'achat, qui est en réalité, non pas mépriser les Français, mais mépriser les difficultés qui sont les leurs. C'est être, je crois, déconnecté de la situation du pays. Quand j'entends dire la retraite doit être à 63, 64, 67 ans, que la France ne travaille pas assez, j'ai l'impression d'avoir entendu ça depuis 30 ans, en réalité, de la part d'une tendance ultralibérale qui vise toujours à culpabiliser les Français. Ce seraient eux les responsables, en réalité, de la situation du pays. Ce ne sont pas les Français les responsables de la situation, ce sont les dirigeants politiques.
Elle a raison, Jeannette Bougrab, de pointer les différences qu'il y a entre elle et Zemmour. Marine Le Pen.
Oui, parce qu'ils ont des différences, mais moi, ce qui m'inquiète davantage, c'est qu'effectivement, un électeur sur trois est prêt à voter pour soit Éric Zemmour, soit Marine Le Pen, ce qui démontre bien l'espèce de pas de faillite, mais en tout cas de faiblesse, en tout cas du personnel politique ou des gouvernants, de ne pas être capable d'entendre une partie de la population qui estime ne souffrir, de pas lui apporter des solutions. C'est ça qui est inquiétant. Ce qui est en même temps rassurant, c'est de se dire que peut-être, pour une fois, l'élection présidentielle, peut-être qu'il n'y aura ni Marine Le Pen, ni Éric Zemmour, et que peut-être, comme il y aura cet éparpillement des voix entre ces deux candidats d'extrême droite, eh ben, il y aura la droite républicaine, et puis, les sondages le laissent penser, Emmanuel Macron au second tour. Et tant mieux, à la rigueur, peut-être qu'Éric Zemmour va faire ce qu'Emmanuel Macron n'a pas réussi à faire baisser, à faire tomber Marine Le Pen.
Aminé Katmi, c'est votre analyse aussi ?
Mais en tout cas, Marine Le Pen, elle a sans doute, de son point de vue, raison de taper sur cet angle-là, parce que c'est vrai que c'est une stratégie assez étrange de la part d'Éric Zemmour. Dès qu'il est questionné sur des sujets un peu précis, notamment sur le pouvoir d'achat, il dit « mais tout ça relèvera du Premier ministre, moi c'est pas mon sujet, c'est exactement la réponse qu'il fait. Moi je suis là pour incarner, donner les grandes orientations, et puis en gros la logistique suivra, quoi, et l'intendance suivra, et on verra ça avec le Premier ministre. » À un moment, il est rattrapé par la réalité. C'est que quand vous avez fait le tour de l'islam, le voile, les prénoms, les femmes, il ne faut pas qu'elles aient le pouvoir. Donc quand vous avez fait les 3-4 sujets là, monothèmes que vous tournez en boucle depuis 2-3 ans, bah, y a un moment où les Français ils disent et après, qu'est-ce que vous pensez sur des sujets qui ne sont pas... c'est pas mépriser les Français que de leur dire comment ils vont mieux gagner leur vie, comment ils vont gagner en pouvoir d'achat, parce que vous avez des millions de Français qui sont à l'euro près, qui sont à 50 centimes près pour finir la fin du mois, qui sont frappés notamment par les hausses des prix, des tarifs, de l'énergie, et eux ne considèrent pas ça comme du mépris qu'un responsable politique s'occupe de leur dire « voilà ce qu'on va faire pour que vous puissiez vivre un peu mieux ».
Par exemple, Édouard Philippe, quand il dit il faut peut-être penser la retraite à 65-67 ans, ce qui fait la différence entre Marine Le Pen et Éric Zemmour, c'est que sans doute Marine Le Pen, sur certains sujets, beaucoup plus proche de Jean-Luc Mélenchon, notamment sur les questions économiques ou sociales, notamment une retraite à 60 ans, etc. Alors que lui se rapproche davantage sur certains aspects, et qui est peut-être lié à certains de ses conseillers, il a des idées plus libérales.
La droite classique, c'est aussi plutôt du CSP+. Son électorat et des personnes plutôt de plus de 50 ans.
C'est pour ça que le fait le fait qu'il soit pas pour une hyper présidentialisation du régime et qu'il revienne peut-être à un exécutif bicéphale, donc c'est pas non plus indécent de dire qu'il y a aussi un premier ministre, un gouvernement. C'est ce qu'on reproche à Emmanuel Macron, sa conception verticale du pouvoir. Et donc lui dit il y aura un premier ministre. On l'a reproché à Nicolas Sarkozy.
Guylaine Ottenheimer, pas d'accord?
Non, je suis ravie si le premier ministre et le parlement reprenaient un petit peu de place dans nos institutions. Je plaide pour ça depuis 50 ans, alors j'adorerais. Mais franchement, oui, le pouvoir d'achat, ça fait partie aussi des préoccupations du président de la République. Même De Gaulle, dont on disait qu'il ne gérait pas l'intendance, s'en préoccupait. Enfin, je veux dire, il faut être aveugle, il faut être sourd, il faut être je ne sais pas quoi, à côté complètement de la plaque, pour répondre « ça c'est mon premier ministre, j'en parle pas ». Enfin, c'est un sujet de campagne important. On ne peut pas juste dire « ça sera prochain d'affaires, on dira, on verra ».
Je ne dis pas du tout que ce n'est pas un sujet de campagne, je trouve pas que de dire que il y a des séquences qui vont en parler un peu plus tard sans doute loin de moi l'idée de le défendre, mais sur la question du pouvoir d'achat, c'est un peu comme ça revient là parce qu'on est en campagne électorale, c'est-à-dire que quasiment on n'en a pas parlé pendant 5 ans, il y avait un taux d'inflation relativement bas, il y a ce soir une interview dans Le Monde de Carinco sur les questions du prix d'énergie, du chèque de l'énergie, et il y a un chiffre qui est peut-être difficile à entendre, mais les prix du carburant sont les mêmes qu'il y a 3 ans, donc c'est vrai que du coup alors même qu'on retrouve le niveau de prix, en fait, du prix du carburant d'il y a 3 ans, ça prend une résonance particulière 2018. Parce qu'on est en campagne.
Oui, mais que Zemmour dise, qu'il dise ça, je ne m'en préoccupe pas parce qu'il n'y a pas un problème. Et on ne peut pas dire, ça sera mon
problème. Non, mais je dis. Voilà,
Louis,
mais
un petit mot là-dessus avant la pause.
Ce sera la vraie différence, c'est vrai, entre Marine Le Pen et Éric Zemmour. Et Marine Le Pen. Aurait pu tomber dans le piège de cogner violemment sur Zemmour, ce qui était vraiment un piège parce qu'elle n'ignore pas que Zemmour rencontre un écho près de ses sympathisants et que quelque part, il met en mots, mieux qu'elle ne le fait, les idées du Rassemblement National. Et il sait toucher ses sympathisants-là. Donc elle n'est pas tombée dans ce piège, elle essaie de le déborder sur d'autres sujets, sur lesquels, c'est vrai, ils ont des vraies divergences. Et Éric Zemmour sûrement préciser son programme économique, mais de ce qu'il en est apparu, il part sur un programme très libéral de la droite classique, un programme économique tel que le porterait un candidat LR, qui se rapproche même d'un Fillon en 2017. On ne sait pas encore combien de fonctionnaires il voudra supprimer, mais ça va être ça. Et Marine Le Pen, là-dessus, c'est vrai, elle ne joue pas du tout sur le même tableau et elle ne va pas parler au même public quand elle va parler de son programme économique, c'est évident.
On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant dans Punchline sur Europe 1, on écoutera François Hollande, puisqu'il est de retour avec un livre et avec des mots très durs pour la gauche, des lilliputiens. A tout de suite.